Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Vendredi 3 septembre, c'est le long week-end de la fête du travail qui s'amorce, si vous voulez. Avec un peu de pluie, il y en a eu dans les dernières heures, là, rien de majeur bien sûr, mais quand même. Et toujours cette probabilité d'averse ce matin, avec des vents légers le maximum prévu, 23 degrés. Pour samedi, c'est du soleil 24, un peu de nuages. Dimanche, ça commence très bien, là, mais autour de 27 degrés, soleil et nuages. Par contre, en soirée, il y aura de la pluie, puis c'est le même scénario pour lundi. Là. Parle d'averse au total, quelques millimètres de pluie, donc, d'ici le retour de ce congé de la fête du travail. Bon, ce matin, d'abord, on apprend, il y a quelques minutes, qu'en Nouvelle-Zélande, un terroriste a été abattu par la police après avoir blessé au couteau 6 personnes dans un supermarché. C'est quelqu'un qui était connu des autorités. C'est un proche, dit-on, de l'organisation de l'État islamique. Il était surveillé en permanence par des agents civils. Là, il manque un certain nombre de détails. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est entré dans un centre commercial d'Auckland, s'est emparé d'un couteau et a commencé à poignarder des passants. 6 personnes ont été blessées et lui a été abattu donc par les policiers. C'est un homme qui est arrivé du Sri Lanka en 2011. Il était sur la liste de gens présumés terroristes et à surveiller. Alors, dans la minute où les policiers sont arrivés, ils ont ouvert le feu et finalement, l'homme est décédé. Alors, voilà pour cette nouvelle qui vient de tomber. Maintenant, on va en reparler avec Alain tantôt, c'est sûr, là. Mais le décès de la boxeuse Jeannette Zacharias Zapata soulève énormément de questions. Depuis la mort de certains boxeurs, je pense à Cleveland Denny, et d'autres qui ont eu des séquelles graves, il y a des changements qui avaient été faits à la réglementation pour essayer de nettoyer le milieu de la boxe. Puis ce matin, je pense que faut éviter de tomber dans le débat sur la boxe comme telle. Il y a des gens qui n'aiment pas la boxe, il y a des gens qui sont contre la boxe, il y en a qui trouvent ça que ça n'a pas d'allure quand... 2021, on permet à des gens de s'affronter. C'est une question, c'est un débat. Mais les modalités, les règles sont quand même étonnantes. Comment ça se fait que cette jeune femme-là, si vraiment elle a 18 ans, c'est ce qu'on prétend, a pu monter dans le ring samedi après avoir, 3 mois auparavant, été blessée? Sérieusement, je pensais que c'était impossible. Yvon Michel nous a dit « Ouais, mais elle a été examinée par les médecins, puis peut-être. » Mais si c'est ça, on a des problèmes, là. Et qui est-elle pour le vrai? Qui est cette personne qui a fait l'entente? C'est un vrai promoteur. On a, et cette semaine, on parlait justement de cette espèce de multiplication d'organisations de boxe avec des critères différents. Et il n'y a pas de règles, disons, internationales solides. Ça a l'air du n'importe quoi. Ça a l'air, on fait un gala de boxe, on n'est pas capable de trouver des boxeuses. Fait qu'on fait des deals sur le bord de la frontière, puis on prend ce qui passe. Il y a des questions, là. Et quand un coroner va se pencher là-dessus, c'est clair qu'il va avoir des recommandations et que probablement on va modifier la réglementation dans ces cas-là. Maintenant, autre chose ce matin, le débat. J'ai envie de vous dire, je ne suis pas convaincu que ça change beaucoup de choses dans l'issue. Je pense que le premier élément d'un débat, c'est d'essayer d'intéresser les gens. On est quand même le 3 septembre, l'élection c'est le 20. Je ne sens pas, pour être bien franc, là, une grande passion autour de ça. Hier, d'ailleurs, pendant le débat, les chefs ont rappelé à M. Trudeau qui nous a plongé en élection, que c'était pas nécessaire, que tout ce qu'il promet aujourd'hui, il aurait été capable de le faire dans le cadre de son mandat. M. Trudeau est pas d'accord, c'est sûr, mais bon. Alors, Est-ce que le débat a suscité chez vous un intérêt? Mis à part les gens qui sont déjà derrière des candidats, derrière des chefs au sein de partis, qui sur les réseaux sociaux, évidemment, font de la mousse, là. Tu regardes ça assez froidement hier, tu dis OK, t'as un candidat qui maîtrise parfaitement la langue, le chef du Bloc québécois, M. Blanchet. Justin Trudeau parle bien français, il a parfois un peu de difficulté à construire les phrases, là. Mais les deux autres, c'est une présentation correcte. Mais ça ne permet pas à O'Toole, à Jack Meeting, de s'exprimer aussi facilement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des phrases un peu clichés. Donc, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas eu de geste spectaculaire. Les chefs, de façon générale, ont donné une performance. Puis quand tu es limité par ta capacité de parler la langue, ben tu répètes le mot plan, contrat, puis on les connaît. Je veux dire, on a affaire, d'un côté, à un premier ministre sortant qui n'aime pas la loi sur la laïcité, qui a tendance, depuis les derniers engagements, à se mettre le nez dans des compétences provinciales en promettant des chèques, mais en mettant des conditions. On a le Bloc québécois qui défend les intérêts du Québec. Puis je veux pas insister, mais je pense que c'est une gaffe, l'histoire du pont, le troisième lien à Québec. Tu peux pas être quelqu'un qui parle d'environnement de façon crédible puis faire la promotion. Et on sait que ça a brassé puis que ça brasse encore au sein, disons, des péquistes et des bloquistes sur cette question-là. Jack Meeting, il dit qu'il y a du racisme systémique. C'est quelqu'un qui est le plus à gauche et qui veut, par exemple, faire disparaître les traces du privé en santé. Et il y a eu cet échange avec O'Toole également et M. Trudeau. Et O'Toole, ben, ce sont les conservateurs. Puis entre ce que le chef dit puis ce que certains candidats pensent, et même disent, on a affaire à des gens de droite. C'est une coalition de droite avec du monde extrémiste sur des questions comme l'avortement, l'aide médicale à mourir. Donc, tu regardes ça, tu dis, le débat m'a pas permis d'apprendre grand-chose. C'est une appréciation des chefs, c'est des positionnements, donc, qu'on pouvait, je pense, assez facilement faire. Mais la grande question, c'est pourquoi on est en élection maintenant? Ça donne quoi? On dépense 600 millions. C'est une stratégie. Est-ce que ça va permettre à M. Trudeau d'aller chercher un mandat majoritaire? Pas convaincu de ça. Très possible, pour ne pas dire probable, qu'au terme de l'élection, on va se retrouver avec encore un gouvernement minoritaire. Libéral, conservateur, ça reste à voir. Maintenant, la commissaire à la santé a publié hier son rapport préliminaire sur la tragédie dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie. Au total, 5745 personnes sont mortes dans la COVID, dont 90% hébergées dans les centres ou encore dans les ressources intermédiaires et les RPA. C'est du monde, là. Et ce qu'elle nous dit, dans le fond, c'était prévisible. Il y a comme deux niveaux dans le rapport. Un, c'était prévisible parce que pendant des années, on a négligé et on a fait en sorte qu'il y a eu du sous-financement et que les réformes, et là, on va appeler un chat, là, la création des CIS et des CIUS, la réforme de l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a semblé, je la cite, entraîner une perte sur le plan des données disponibles. Et la disparition des agences a créé une perte d'expertise pour certaines banques de données. La fusion des établissements a fait disparaître l'information par centre et les données ne permettaient pas donc l'analyse des ressources financières et humaines de façon convenable. Donc, la réforme Barrette a affaibli un réseau qui était déjà faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça concerne davantage les décisions prises pendant la pandémie. Et là, pas besoin de rappeler ce qui s'est passé, là, des centres désertés, des patients qu'on a promenés d'une zone à l'autre, des employés contaminés. Puis quand l'armée débarque, on se retrouve avec des gens qui sont morts de soif, des gens déshydratés. Et je vous le dis, que la COVID ait fait autant de victimes chez les personnes âgées, c'était prévisible. Des gens plus vulnérables. Et que ces gens-là soient morts, beaucoup d'entre eux, dans des conditions qui ne se décrivent pas, c'est inadmissible. Et je comprends qu'on ait un rapport préliminaire, mais moi je pense que le décès d'autant de gens comme ça aurait mérité une vraie commission d'enquête. Et puisqu'on parle de santé, je regardais les chiffres hier concernant le virus. Il y a eu 699 cas qui ont été rapportés, puis souvent les gens me posent la question, mettons je fais un chiffron, là, 700 cas, là, c'est quoi le pourcentage de gens qui n'étaient pas vaccinés adéquatement? Pas vaccinés du tout? Ou encore avec une dose seulement? La réponse, 82%. Et ça veut dire que tu peux être vacciné et avoir quand même la maladie, avec des effets secondaires moins graves. Mais les médecins que vous avez entendus depuis quelques jours disent tous la même chose. Les patients COVID hospitalisés sont plus jeunes, sont dans la très grande majorité des cas non vaccinés, et comme ils sont jeunes, puis que l'organisme se bat, il occupe des lits d'hôpitaux plus longtemps. Et s'ajoute cette année la grippe, qui commence d'ailleurs, supposément, on est en train de regarder ça, donc l'influenza qui s'invite, nous dit Le Devoir, parce que, bon, ben on a déconfiné, puis les gens ont plus de contacts, plus de rapprochements. L'an passé, il y avait eu pratiquement pas de cas. Mais cette année, on se rend compte donc que la saison de la grippe est déjà commencée. On poursuit avec les vaccins. Il y a un juge qui a rendu une décision extrêmement importante. C'est une juge, pour être plus précis, concernant un litige entre deux parents. T'as la mère qui veut que l'enfant soit vacciné, et l'enfant a 12 ans, et t'as le père qui veut rien savoir de ça, qui considère que il y a des effets secondaires potentiels. Bref, il est contre la vaccination. Et dans la décision, la juge dit quoi? D'abord, elle a écouté le médecin de l'enfant qui a dit il n'y a pas de contre-indication. C'est pas un enfant là, pour qui le vaccin n'est pas indiqué. Deuxièmement, il a regardé les décrets de santé publique et la responsabilité puis la recherche du Québec d'avoir le plus de gens possible vaccinés. Et évidemment, pour pouvoir participer à des activités, l'enfant a besoin d'être vacciné. Donc, le père, lui, disait que c'est un vaccin expérimental et que son fils aurait des effets secondaires. Et que déjà, les anticorps permettaient de se battre contre le virus et que la vaccination n'était pas nécessaire. Et je vais en reparler avec Maître Schirm tantôt, mais ce qu'on dit dans ce jugement-là, là, c'est qu'on a fait une analyse médicale, légale, mais médicale, et que dans le fond, il n'y avait pas rien qui justifiait la décision ou en fait la volonté du père. Donc, décision en faveur de la mère et l'enfant sera vacciné malgré l'opposition du père. Le dossier du REM. Là, finalement, c'est un tunnel de 500 mètres. Et ça va partir à peu près le Saint-Urbain-Saint-Laurent, là, sous René Lévesque, jusqu'à ici, le Robert-Bourassa, là, sous le secteur de la place Ville-Marie. Et plus vers l'est, donc jusqu'au pont Jacques-Cartier, ce sera une structure aérienne. Ce que la Caisse nous dit, là, c'est que techniquement, c'est peut-être faisable, mais c'est pas rentable de penser enfouir la totalité de la structure. Et 500 mètres, c'est le maximum qu'on peut faire. Alors, de deux choses l'une, ou on prend ce projet-là et on le fait comme ça, ou ben donc on oublie ça. Et on comprend qu'on a besoin d'un lien de transport en commun, de transport collectif avec l'Est. L'Est de Montréal est mal desservi. Et là, il y a des enjeux de compétition avec le métro. Parce qu'on prolonge aussi vers l'Est. Alors, est-ce que tu as besoin du REM comme ça jusqu'au centre-ville? Est-ce que la clientèle est là? Est-ce que le bassin? Peut-être. Et ce que les gens de la Caisse disaient hier, c'est que techniquement, compte tenu de tout ce qu'il y a dans le sous-sol du boulevard René-Lévesque, on va s'arracher les cheveux de sa tête. Il n'y a pas une entreprise qui va nous livrer ça clé en main. Puis on va se heurter à une spirale de coûts, puis le projet ne sera pas rentable. Donc on va y revenir aussi un peu plus tard ce matin. D'autre part, on a appris hier le décès du promoteur immobilier Joe Borsellino, qui est mort à 80 ans. Il était à la tête d'un groupe important, le groupe Petra, qui possède des immeubles. Ça a été fondé au milieu des années 80. Et je ne sais plus combien d'immeubles. Là, certains parlent de plus d'une centaine même d'immeubles dans la grande région de Montréal. Il y a le 1000 Lagauchetière, la tour CIBC. Et M. Borsellino était le conjoint de la sœur de Lino Saputo. Alors donc, l'entreprise Saputo et également tout le volet immobilier. Il y a eu des allégations le concernant sur des liens avec le crime organisé. Ça n'a jamais été prouvé, il n'a jamais été accusé. Et je me souviens à l'époque qu'on pensait qu'il était pour témoigner à la commission Charbonneau. Et finalement, ben, ça ne s'était pas produit. Il y a Edgar Fruitier qui revient devant la justice. Il va savoir ce matin si on va le libérer sous caution parce qu'il conteste sa sentence de 6 mois de prison. Sérieusement, j'ai pas trop compris quand son avocat a tenté d'expliquer que la victime n'était pas un enfant. Je veux dire, la victime était mineure, là. Et ce que Bénédicte me disait hier, c'est que même le juge semblait perdre patience là, sur les explications laborieuses qui ont été données dans ce dossier-là. On va s'arrêter pour la pause.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, hier, rapport préliminaire de la commissaire à la santé sur la catastrophe, je dirais l'horreur, dans les centres de soins de longue durée lors de la première vague de la pandémie. En date du 30 août, 5745 personnes étaient mortes de la COVID. 90% des personnes âgées, là, 90% étaient hébergées dans des centres de soins de longue durée, des RPA ou des ressources intermédiaires. Et la commissaire identifie clairement ce que j'appelle des problèmes organisationnels chroniques. Elle est avec nous ce matin. Joanne Castonguay, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
J'aimerais que vous m'expliquiez, je pense qu'il y a comme deux niveaux dans ce que vous avez découvert. Des problèmes de base, de sous-financement, et à peu près tous les gouvernements du Québec peuvent en prendre la responsabilité collective pendant des années de ne pas avoir mis assez d'argent, assez de ressources pour donner un cadre de vie respectable aux personnes âgées.
Absolument. Je peux difficilement commenter. Je suis tout à fait d'accord avec votre interprétation.
OK. Est-ce que vous avez évalué le manque de financement? Est-ce que vous savez combien on aurait dû investir puis qu'on ne l'a pas fait?
On n'est pas rendu là, puis honnêtement, je pense pas que ça se traduit en chiffres. Parce que le problème, c'est pas le fait qu'on met pas assez d'argent, c'est qu'on n'évalue pas qu'est-ce qu'on obtient pour l'argent qu'on dépense.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben en fait, on n'a pas les données sur les coûts par cas. Alors, on sait pas pour une intervention ou pour un patient donné combien qu'est-ce que ça l'a coûté au total. Par ailleurs, quand il s'agit des personnes âgées là, dans les milieux d'hébergement, on traite complètement séparément les milieux d'hébergement de tout ce qui se passe dans le reste du réseau de la santé. Alors, c'est complètement là séparé, alors que c'est des personnes qui sont à des niveaux de dépendance, puis à la fin de leur vie, là, donc qui ont des besoins de santé assez importants. Et il n'y a pas de continuité dans les soins ou de lien entre...
Donnez-moi un exemple parce que je ne suis pas sûr que je comprends.
OK, ben si, par exemple, il y a des complications pour un patient qui est dans les soins, qui est hébergé dans les soins de longue durée, ben on l'envoie à l'urgence. Où on l'envoie à l'hôpital parce que on n'a pas les ressources à l'hôpital pour prendre soin de cette personne-là. Alors, c'est assez simple à montrer. Alors, une personne qui est déjà en niveau de dépendance très avancé, qui est envoyée à l'urgence, puis après ça, qui est hospitalisée, perd énormément de ses capacités parce que là, elle est alitée, elle perd des soins là, de réadaptation qu'elle aurait reçus dans les milieux d'hébergement et donc elle devient de plus en plus, elle décline rapidement. Alors, au lieu de lui offrir les soins dans le milieu d'hébergement où elle habite, le plus souvent, on les offre à l'hôpital. Alors, c'est la personne qui doit se déplacer.
OK. Vraiment, comme on dit, gratter
le bobo.
Ouais, mais non, mais le volet administratif, parce que okay. Ce que je comprends, là, quand Gaëtan ouais. Barrette, avec sa réforme, a créé des CIS puis des CIUS, la ouais. conséquence, ça a été néfaste pour les centres de soins de longue durée. Est-ce que je me trompe?
Je suis pas sûre que je dirais que ça l'a changé énormément, là. Je dirais que ça l'a poussé la chose un petit peu plus loin, là. En ce sens que...
Ben là, je vous cite, la disparition des agences a créé une perte d'expertise pour certaines banques de données.
C'est ça, pour les données, oui. Mais là, on parlait des soins de longue durée, là.
Oui.
Au niveau des données sur les soins de longue durée, spécifiquement, effectivement, on a perdu beaucoup d'informations parce que là, l'information est noyée dans le reste de l'établissement. Alors, on traite là un établissement comme étant une grande organisation, puis les données de toutes les installations, donc tous les hôpitaux généraux, les CLSC, les soins de longue durée qui font partie de cette même région-là sont cumulés ouais. dans une seule base de données.
OK. Juste comprendre aussi, là, quand la pandémie ouais. arrive, là, dans les centres ouais. de soins de longue durée au Québec, là, est-ce mm-hmm. qu'il y a une structure décisionnelle, opérationnelle, qui est fonctionnelle? Autrement dit, y a-t-il quelqu'un qui, dans chaque établissement, contrôle les opérations, est capable de prendre des décisions?
Dans chaque établissement, si on dit CIS et CIUS...
Non, dans les CHSLD directs.
Dans les CHSLD, au moment de la pandémie ont été déclenchés, non. On avait une personne responsable au niveau de la région pour chacune des installations, mais on n'avait pas une personne dans chacun des CHSLD.
OK, donc il n'y avait pas un boss par établissement.
Non, okay. Ça a été réglé.
Oui, ça je le sais. Mais est-ce qu'au moment de la pandémie, est-ce qu'on avait, on le sait, un problème de ressources? On savait qu'on manquait de monde.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'on manque de monde.
OK. Donc, quand la crise est arrivée, c'était le naufrage prévu, là. C'est-à-dire pas trop de pouvoir à l'intérieur, manque de personnel, des gens extrêmement vulnérables. C'est-à-dire que c'était écrit dans le ciel que ça pourrait arriver de même, là.
Il y en a qui la qualifient d'une tempête parfaite. Je suis assez d'accord, oui, effectivement.
Et ça veut dire quoi, là, quand vous menez votre enquête, là?
Ben, en
ils
fait,
sont morts de la COVID, mais il y en a combien qui sont morts d'absence de traitement, d'absence de soins?
On ne le sait pas.
Allez-vous
en
le
fait,
savoir?
Honnêtement, ce qu'on est en train de faire justement, là, c'est de forer l'ensemble de l'information qu'on a pour en faire ressortir le plus d'informations qu'on peut tirer. Donc, pour le moment, je suis pas capable de vous dire si je vais être capable de savoir combien sont morts de manque de traitement. Ça, c'est assez pointu comme information, puis j'ai pas accès.
Mais c'est majeur, c'est majeur.
Oui. Oui, effectivement.
Parce que mourir de la COVID, c'est une chose quand t'as 88 ans puis que t'es vulnérable puis c'est une pandémie. Mais mourir parce que t'as été abandonné, parce que t'as été maltraité ou pas traité pantoute, c'est encore pire.
Oui, mais il faut faire attention quand même. En fait, je suis pas en train de dire là, que c'est pas dramatique parce que je pense que ça l'est dramatique, mais je pense aux personnes là, qui étaient dans les CHSLD puis qui étaient pas assez de ressources, là, les quelques infirmières qui étaient présentes et qui essayaient puis qui voyaient ça arriver. Alors, il faut faire attention de la façon dont on le dit parce que ces personnes-là là, ont vraiment travaillé vraiment fort pour essayer
mais
de...
Moi, je blâme pas les personnes. Moi, je blâme ceux qui prennent les décisions. qu'il n'y ait pas eu, c'est pas de la faute de l'infirmière si elle est, l'établissement est sous-financé. C'est pas de sa faute s'il n'y a pas une chaîne de commandement claire. C'est pas de sa faute si on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces établissements-là. C'est pas elle qui est à blâmer.
Non, mais.
Mais moi, je veux pas que la classe politique échappe à ses responsabilités. Et c'est ça mon point.
Ben, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à un certain point, en ce sens que c'est pas au moment où ça a été déclenché que les personnes qui étaient en place sont responsables.
Non, je veux
c'est
que
toutes les personnes qui se sont succédées
exactement
dans ces rôles-là.
On dit la même chose. Moi, je veux que la classe politique, ça soit identifié, chiffré. C'est pour ça que depuis le début, moi, je préfère une commission. Puis je vous enlève rien là. Je pense qu'une commission d'enquête publique, on aurait permis d'asseoir des responsables, puis de les questionner, puis passer les ministres qui se sont succédés. Mais bon, c'est pas, ce qui est pas le cas.
Je suis pas d'accord
avec
vous.
Je sais, pas surpris.
Mais vous allez voir, il va y avoir énormément d'informations. Là. Aujourd'hui, là, c'est le déclenchement là, d'une série de publications. On en a j'ai dit aujourd'hui, mais c'était plutôt hier, là, mais il y en a 6 qui sont sortis hier. Et tout au long de l'automne, on va sortir des études là, très approfondies sur plusieurs éléments, notamment justement les coûts puis les revenus que reçoivent les maisons d'hébergement puis comment c'est réparti.
On va se reparler à ce moment-là. Merci, Mme Castonguay.
OK, parfait.
Bonne journée.
Bonne journée.
Joanne Castonguay est commissaire à la santé et au bien-être.
L'essentiel de Paul Arcand.
Will Prosper est le candidat pour Projet Montréal à la mairie de Montréal-Nord et on sait que le Journal de Montréal a publié il y a quelques jours, évidemment, des informations sur les raisons de son départ de la GRC. La GRC l'accusait d'avoir fouillé de façon non professionnelle, faute grave, dans une banque de données et laisse entendre que des informations avaient coulé vers des amis de M. Prosper qui étaient faisaient l'objet d'une enquête pour un meurtre. M. Prosper est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais revenir sur les événements de la GRC parce qu'il y a des points qui demeurent sombres. Puis vous me corrigerez là s'il y a des énoncés qui sont faux. Vous reconnaissez que c'est une faute grave, que vous n'aviez pas à consulter cette banque de données et que vous l'avez fait, pas dans le cadre d'une enquête, mais pour des raisons personnelles.
Absolument, absolument. Je l'ai déjà mentionné, comme j'ai collaboré avec la GRC, que c'est effectivement une faute grave, c'est quelque chose que je regrette, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire, de consulter la banque de données, puis j'ai payé les conséquences quand même assez gravement. C'est plusieurs années par la suite de pain noir, de manger mon pain noir, de passer à travers cette histoire-là qui est quand même assez difficile déjà dans les années 2000.
OK, mais je veux comprendre un peu plus le contexte. Mm-hmm. Vous avez cherché quoi dans cette banque de données?
J'ai cherché des noms d'individus, comme j'ai déjà mentionné à la GRC à l'époque, et je suis tombé sur des informations dessus, puis c'est des informations que j'ai jamais divulguées à
qui que ce soit. OK, mais vous partiez avec des noms précis. Vous cherchez des informations sur vos amis. Vous aviez les noms et les dates de naissance de vos amis.
Oui, bien sûr, c'est des gens que je connaissais. Donc, il y a beaucoup de gens qui font
qu'est-ce que vous vouliez savoir sur eux?
J'étais curieux de savoir si c'est des gens avec qui je pouvais continuer d'avoir des conversations. Et bien sûr, j'ai très bien vu que c'était pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai rompu cette amitié-là.
Et qu'est-ce qui vous a amené à aller voir si vous pouviez encore avoir des relations avec
curiosité,
eux?
Je pense que c'est une pratique que beaucoup de policiers vont faire. Des fois, même encore aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir des policiers qui vont regarder l'ex ou le futur époux ou aimant d'une autre personne. Donc, c'est quelque chose qui se fait couramment. C'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Puis, c'est quelque chose que j'ai regretté d'avoir fait aussi. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai payé lourdement.
OK, mais je encore le comprends. Vous dites, je voulais savoir si je pouvais encore avoir des liens avec eux. Est-ce que vous aviez des doutes qu'ils avaient des activités criminelles?
J'avais des doutes. Il y avait des choses que je me disais, bon, il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas. Puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais être curieux, je vais aller voir. Puis j'ai vu certaines informations. Puis par la suite, j'ai fait comme, ah, OK, là, c'est le temps de rompre cette amitié-là.
OK. Ouais. Est-ce qu'avant ça, vous saviez qu'ils avaient des activités criminelles?
Non.
Ils faisaient partie d'un gang à Montréal?
Il faut comprendre que moi, j'étais policier et il n'y a personne qui va dire, moi, je fais partie d'un gang.
Non, mais vous dites à un moment donné.
Non, mais je veux juste vous dire.
Oui, mais vous avez dit à la GRC, à Montréal-Nord, on sait tout. On sait tout ce qui se passe.
On sait beaucoup de choses, tu sais, parce que moi, j'ai vécu, j'ai grandi à Montréal-Nord, puis on sait qu'il y a des histoires qui circulent. Encore aujourd'hui, je vais vous dire, c'est encore le cas, tu sais, il y a des fusillades. Et les gens qui vivent dans cette communauté-là, parfois, il y a des nouvelles qui voyagent, il y a des choses auxquelles on est au courant. C'est sûr qu'on n'a pas tous les détails, on n'a pas toutes les informations, mais on est au courant de certaines choses. Et c'est pour ça qu'il y a un travail de collaboration, des fois, qui est important aussi entre les citoyens.
Ouais, mais ma question, c'est est-ce que vous saviez que c'était... Qui faisait partie d'un gang de rue, que vous les avez fréquentés pendant qu'ils étaient membres d'un gang de rue.
Il n'y a aucun moyen que je pouvais avoir ce type d'informations-là. Ouais. Je ne pouvais pas le savoir.
Quand vous avez consulté la banque de données, ce que j'ai lu dans le rapport, dans un des cas, vous avez même, pendant que vous étiez devant l'ordinateur, pris le téléphone pour appeler un de vos amis, c'est vrai? Mm-hmm.
Ça, c'est quelque chose qui a été fait, oui, parce que moi, j'ai remis mon relevé de téléphone à la GRC. J'ai toujours collaboré à cette enquête.
Mais là, vous lui dites quoi au téléphone quand vous le voyez, son nom qui est dans l'ordinateur et qu'il est fait l'objet d'une enquête pour meurtre?
Ben, comme je vous dis, premièrement, il y a une chose qui doit être claire, c'est que j'ai jamais divulgué aucune information à cette personne-là. Ça, c'est clair. L'enquête l'a prouvé. Il y a un enquêteur de la GRC qui l'a, bien sûr, corroboré aussi par rapport à ça. Donc, j'ai,
la GRC
ce, que j'ai dit, ce que j'ai dit, faut comprendre, ça fait quand même 22 ans de cela. Je me rappelle pas toutes les conversations. Il y a même 3 ans de cela. Là, juste pour vous prouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez des conversations, il y a aussi loin que ça. Moi, ce que je sais aussi, c'est que souvent, avec cet ami-là particulièrement, moi, j'ai toujours essayé de jouer un rôle positif auprès de cette personne-là pour s'assurer qu'il se réintègre dans la société. Son père m'avait dit, tu sais, Will, il faut que tu parles à lui parce que quand tu lui parles, il t'écoute, tu le transformes et ça aide grandement. Et c'est toujours quelque chose...
Non,
que
ça, je comprends ce rôle de mentor, si on veut, mais exact. C'est quand même étonnant qu'un policier de la GRC est devant l'ordinateur, devant une banque de données, pour laquelle il n'y a pas de raison professionnelle d'aller regarder, fouille à partir des noms, des dates de naissance de ses amis... Et pendant que vous fouillez, pendant que vous avez accès, que vous découvrez qu'ils font l'objet d'une enquête pour meurtre, vous êtes au téléphone avec lui pour lui dire quoi?
Mais comme je vous l'ai dit, j'ai jamais divulgué aucune information. Il n'y a jamais rien durant toute cette enquête-là qui a démontré quoi que ce soit dans ce sens-là. Et ça, c'est les faits. Et ça, ça demeure là-dessus. Tu sais, on peut continuer à faire le tour de ce que j'ai déjà fait comme processus avec la GRC il y a 22 ans.
J'ai lu le rapport complet. La GRC garde un doute sur vous. Il considère que possiblement vous avez nué une enquête parce que l'enquête a dérapé.
L'enquête, moi, je suis pas au courant si l'enquête a dérapé, pour vous dire. On reste dans une société de droit. Et dans une société de droit, on se base sur des faits. Moi, j'étais enquêteur dans la vie. Mais... Donc, on peut supposer bien des choses, on peut avoir des hypothèses.
Ben, c'est pour ça que je vous pose une question.
Mais c'est pour ça que je vous
la nature de la conversation.
Mais c'est pour ça que je vous le répète. J'ai jamais transmis aucune information à qui que ce soit dans ce que j'ai vu par rapport à cet ordinateur.
J'ai vu dans d'autres cas de policiers qui ont fait ce genre d'exercice-là, c'est-à-dire d'aller fouiller dans une banque de données sans être autorisé. Les sanctions varient. C'est une suspension. Et dans certains cas, parce que c'est une infraction criminelle à la base, il y a eu des accusations contre des policiers. Est-ce qu'on vous a menacé de vous accuser au criminel pour ça?
Non. Non,
il y a pas eu de deal avec la GRC.
J'ai continué à travailler pendant encore 3 ans par la suite dans la GRC. J'ai eu des formations. Faut savoir que, tu sais, ce métier-là, moi, je l'ai quand même très bien pratiqué. Puis malgré tout, tu sais, vous devez savoir aussi que 2 de mes superviseurs ont dit qu'ils me reprendraient n'importe quand.
Ce qui est vrai.
Et ça, c'est juste pour démontrer le travail que je faisais dans cette communauté-là. J'étais beaucoup impliqué aussi. J'étais coach au basketball. J'ai organisé des événements dans la communauté dans laquelle je travaillais. J'ai même fait un tournoi pour une levée de fonds.
Vous avez sauvé quelqu'un comme policier, je pense, un enfant.
Non, ça, c'est fille de la noyade, donc c'est déjà, j'ai été recommandé pour la médaille de la bravoure. Donc j'ai fait plusieurs actions aussi qui sont quand même assez importantes pour
la
justice.
Mais dans le rapport, on dit de vous que vous êtes arrogant, que vous entretenez une certaine confusion dans vos réponses, que vous êtes pas précis, que vous êtes pas clair, et c'est pour ça qu'on est face à un rapport qui était quand même assez dévastateur pour vous. Là.
Ben, moi, j'ai payé les conséquences de ces actions-là il y a déjà 20 ans de ça. Je les ai subies quand même assez personnellement. Ça a été quelque chose qui était vraiment pas facile, juste pour vous dire. Et j'ai récupéré après ces incidents-là. Tu sais, je me suis réinséré, j'ai fait mon travail comme je continuais de le faire auprès de ma communauté. Et pour moi, j'ai dédié tout mon temps à essayer de faire en sorte qu'on travaille à la réinsertion des jeunes, qu'on travaille auprès d'eux, qu'on les épaule, qu'on essaye de faire en sorte qu'ils se réintègrent dans notre société. Et souvent, quand on grandit dans une communauté comme celle de Montréal-Nord, on va avoir des connaissances qui vont être associées avec ce milieu.
J'y viens à votre candidature, donc, pour Projet Montréal. Madame Plante a annoncé cette semaine avec le directeur Caron une augmentation du budget pour la police, une augmentation d'effectifs pour, évidemment, faire face à cette flambée de violence et ces nombreux crimes avec armes à feu. Êtes-vous d'accord avec l'augmentation du nombre de policiers?
Ben, c'est une décision pour laquelle, comme j'ai déjà dit, moi, c'est une décision que je suis d'accord. Je pense que, en ce moment-ci, quand on parle avec les familles qui vivent dans certains quartiers à Montréal-Nord et qu'on parle de leur réalité, les craintes que ceux-ci ont par rapport aux incidences de violence qu'on a vues dernièrement, je pense que c'est compréhensible. En même temps, j'aimerais souligner quand même que c'est important le travail des organismes communautaires. Il y a aussi un investissement de 5 millions de dollars par année qui a été fait par la mairesse pour les organismes communautaires. Et ça, je trouve que c'est tout autant important parce qu'il faut vraiment adresser les problèmes.
Vous avez raison, on ne règle pas tout avec une augmentation de policiers. mais vous avez fait partie d'une coalition qui a réclamé de réduire le financement.
Ça, c'est faux. J'ai jamais fait partie de cette coalition-là. L'organisme Autistock a jamais fait partie. Donc, je sais pas de où est-ce que cette information-là provient.
Vous avez jamais demandé qu'on réduise le financement de la police?
J'ai déjà parlé de réduire le financement, mais cette coalition dont vous faites allusion, j'en ai jamais fait partie, donc.
OK. Alors, est-ce que vous avez déjà milité en faveur d'une baisse du financement de la police?
Monsieur Arcan, pour moi, quelque chose qui est absolument important, c'est toujours d'investir massivement dans le communautaire.
Mais là, vous répondez pas à ma question. Je vous demande si vous avez déjà demandé une baisse du financement de la police.
J'ai déjà mentionné que ça serait important de réduire le budget de la police. Parce que je crois que c'est fondamental qu'on adresse les enjeux profonds dans une communauté comme la nôtre.
Mais là, j'ai de la misère à vous suivre. Vous me dites, j'ai demandé qu'on réduise le budget de la police, puis vous me dites ce matin que vous êtes d'accord avec l'augmentation du budget de la police.
Oui, parce qu'il il faut mettre les choses en contexte, hein. Il y a, comme on le dit, il y a des incidences de violence qu'on voit présentement. Et quand on prend en considération ces incidences-là, je pense qu'il y a une réponse pour les crimes qui ont été commis qui doivent être mis en place. Et ça, on est capable de le mettre en contexte dans l'actualité. Et ça, je suis capable de le comprendre. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'un budget, comme à chaque année, ça va être réajusté par la suite. Et ça, il faut voir comment qu'on mesure, mais c'est où les différents endroits qu'on alloue des fonds.
De façon générale, Mme Plante a répété qu'elle ne sera pas mairesse de Montréal pour réduire le budget de la police. Là, je comprends, c'est un cas particulier, là, mais de façon générale, elle n'est pas d'accord. Puis il y a des gens de son parti qui sont en faveur de ça. Très clairement.
Très clairement, je fais partie de Projet Montréal et je me présente comme candidat pour eux.
Mais est-ce que vous souhaitez...
Je respecte cette ligne-là. Okay. Donc, c'est quelque chose à laquelle je conviens. Comme je l'ai mentionné lors du lancement de ma campagne, comme je l'ai mentionné à d'autres entrevues, et comme je vous le mentionne encore aujourd'hui. Et ça ne change pas.
OK, donc vous avez changé d'idée sur la notion du financement de la police.
Comme je le dis, parfois... Il y a des circonstances dans lesquelles il faut qu'on analyse où est-ce qu'on est rendu en tant que société. Parce que est-ce qu'on va rester toujours dans une société où est-ce qu'on se dit, bon, ben le budget va toujours rester de manière fixe ou on doit le revoir? On va toujours être appelé à le revoir, comme au fédéral, comme au provincial, comme au municipal. Et ça fait partie du rôle des élus, de revoir comment qu'on alloue les budgets aux différents endroits, au sein de la ville, aux différentes administrations. Et moi, c'est toujours quelque chose que je compte faire. Donc, si on est pour dire, on va juste utiliser le budget continuellement, on va continuer dans une lancée, sans prendre en considération les impacts que ça peut avoir dans différents niveaux, pour moi, je pense que notre rôle est justement de revoir et de comprendre où est-ce qu'on peut aller chercher ces allocations-là. Et comme je le répète, pour moi, c'est toujours important d'investir dans le communautaire parce que je le vois la différence qu'on fait auprès de nos jeunes, particulièrement dans des communautés comme dans celle de Montréal-Nord.
OK. Yves Francoeur, le président du syndicat La Fraternité, dit de vous que vous générez de la haine et qu'il y a un climat avec les policiers qui est extrêmement difficile. Que les policiers ont de la difficulté à faire leur travail et, je dirais, identifier des éléments criminels. Bref, que vous êtes un anti-police, on va se parler directement, puis que vous tenez des propos qui n'aident pas aux relations entre les gens de Montréal-Nord, par exemple, et les policiers.
Ça, c'est profondément inquiétant d'entendre des propos de la sorte. Je propage pas la haine. Je travaille même sur la table de quartier avec des policiers. Je travaille sur différentes tables, dont le Nord-Est à Montréal-Nord, avec des policiers encore. Je mets un programme sur pied qui est un programme innovateur de justice alternative. Où est-ce qu'on travaille encore avec les policiers? J'ai des policiers qui viennent me voir, qui me disent « Will, tu fais vraiment un bon travail. Ça nous aide, nous, dans notre milieu. » Il faut comprendre quand même que quand on parle de profilage racial, quelque chose qui existe, on l'a vu, il y a des rapports qui sont sortis là-dessus, on est souvent perçu comme étant comme contre la police, alors qu'on essaie de rétablir la relation que la police a envers les citoyens. Et pour moi, c'est important de voir à ce que la police préserve la vie des citoyens et ne commette pas non plus d'injustice auprès de certains citoyens. Okay. Donc, je pense qu'on va tous dans ce sens-là. Puis moi, ça m'inquiète d'entendre des propos de la part de M. Francoeur aussi de la sorte, quand on regarde quelqu'un qui est en train de faire pratiquement de la diffamation à mon égard, qui s'insère dans une campagne électorale. On est dans une démocratie. C'est quand même le syndicat ou la fraternité des policiers qui est quand même assez fort, qui a des intérêts personnels et qui est en train de dire des propos diffamatoires à mon égard. Moi, je trouve qu'en tant que démocratie, c'est quelque chose qui peut être très, très, très dangereux, malheureusement.
Après la publication de l'article du Journal de Montréal, est-ce que vous avez pensé à quitter, à renoncer à être candidat?
Oui, je l'ai mentionné parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est pas Will Prosper. Hein. Will Prosper, c'est pas ce qui est le plus important. Will Prosper va toujours continuer à travailler comme ça se peut pas pour sa communauté, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et je pense que Projet Montréal met des idées, met des initiatives qui sont assez importantes pour des communautés comme celle de Montréal-Nord. Et moi, je respecte énormément ça et je veux pas dérailler quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc, je l'ai proposé à Valérie. Et Valérie, il faut comprendre, c'est quelqu'un qui est venu me voir à plusieurs reprises à Montréal-Nord pour voir le travail qu'on fait sur le terrain. Et elle comprend l'importance de ce travail-là. Tu sais, juste la dernière année, on a reçu le prix de Jack Layton en tant qu'organisme pour notre implication auprès de notre communauté. Ça, c'est pour l'organisme qui a le plus rayonné, le fait plus de
Mais
travail.
Est-ce que c'est vrai que Montréal-Nord, c'est, disons, un arrondissement dur pour Projet Montréal, que Projet Montréal, là, c'est comme, il y a des comtés plus favorables, il y a des arrondissements que vous avez pas une côte à remonter, mais l'Everest.
Mais c'est sûr que c'est une communauté où est-ce que on a des partis politiques qui sont là depuis des années. On a un establishment qui est là depuis très, très longtemps. Et c'est pas facile, tu sais. C'est vraiment le combat de David contre Goliath. On voit d'ailleurs avec la réaction que je subis par rapport à certaines choses qui sont produites il y a 22 ans de cela. On voit qu'il y a quand même un establishment. Il y a une forme de statu quo. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a un impact énorme sur la population de Montréal-Nord. Ça fait des années qu'on a un indice de pauvreté qui augmente à Montréal-Nord. On a des conditions de logement qui sont pitoyables. On a des situations où est-ce que les citoyens ne devraient jamais être pris là-dedans. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux reconstruire, rebâtir Montréal-Nord et redorer cette fierté-là qu'on a en tant que communauté. Parce qu'à Montréal-Nord, on fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Et si on en avait beaucoup de moyens, on ferait beaucoup plus. Mais il faut surtout une volonté des gens qui comprennent cette réalité-là, des citoyens de Montréal-Nord, de la jeunesse, pour pouvoir faire les transformations. Et pour la première fois dans l'histoire de Montréal-Nord, on va finalement avoir une chance d'avoir une vraie élection.
OK. Donc, en résumé, vous n'avez pas donné de l'info à des criminels. Vous avez déjà prôné une baisse du financement, mais vous êtes d'accord avec la position de la mairesse d'augmenter les effectifs policiers. Vous êtes d'accord pour qu'il y ait plus de patrouilles à Montréal-Nord?
Présentement, il y a plus de patrouilles à Montréal-Nord. Hein. Je pense que, comme je vous l'ai déjà
mais
dit, il y a des familles qui ont peur.
Oui.
Mais moi, je veux surtout qu'il y ait beaucoup plus de travailleurs de rue, beaucoup plus d'intervenants, beaucoup plus une approche, parce que ça prend du temps. C'est pas un travail qui est très, très sexy.
Mais je suis d'accord avec vous. Ça prend à la fois une présence policière forte pour rassurer les gens, mais en même temps, ça prend aussi des interventions pour, comme on dit, redonner un peu d'espoir puis de la vie.
Écoutez, moi, depuis que j'ai grandi à Montréal-Nord, on a 2 travailleurs et demi de rue. Et ça, c'est pas normal dans une communauté comme la nôtre. Et c'est important qu'on ait quelqu'un qui ait une volonté de véritablement faire des changements. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce que je compte faire, en fait, à Montréal-Nord. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous supportent, qui supportent notre campagne. On a vu qu'il y a des mouvements de personnes qui sont comme, oui, nous sommes Will Prosper, nous comptons sur lui, nous avons besoin de cette personne-là pour faire une vraie différence. Et ça va être aux gens de Montréal-Nord
de décider.
Et Prosper, ça, c'est très, très clair.
Merci d'être venu ce matin. Will Prosper, qui est donc candidat à la mairie de l'arrondissement de Montréal-Nord.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, la boxeuse mexicaine Jeannette Zacarias Zapata, malheureusement succombée à ses blessures hier. La nouvelle est tombée en soirée. Elle avait 18 ans, blessée, commotion grave lors de son combat contre Marie-Pierre Houle le samedi dernier. Il y a une enquête du coroner qui a été annoncée ce matin, procédure normale là, par la ministre Guilbeault. Et Yvon Michel, on lui a fait l'invitation, il a refusé, il a le droit de le faire, il se contente du communiqué. Mais on va en parler ce matin avec Enrico Ciccone, qui est le député libéral de Marquette et porte-parole de l'opposition en matière de sport. Monsieur Ciccone, bonjour.
Bonjour, M. Arquin, merci de me recevoir.
Alain aussi est avec moi ce matin.
Salut, Enrico.
Première question que je vais vous poser ce matin, comment je vous dirais ça là, pour être le plus clair possible? Je pensais, peut-être naïvement, que les règles entourant les combats de boxe étaient beaucoup plus strictes que ça au Québec, qu'on ne pouvait pas permettre à quelqu'un qui a eu une commotion après 3 mois de remonter dans un ring. Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Ce que je sais là-dessus, c'est que la loi sur la régie de l'alcool et course de jeux n'a pas changé depuis les années 90. Alors, déjà là, je pense qu'il faudrait commencer peut-être à revoir cette loi-là et la moderniser. On sait que la science du sport change beaucoup, les entraînements changent beaucoup également, les boxeurs et les boxeuses sont mieux entraînés, sont plus forts. Puis il y a peut-être une problématique aussi, M. Arquin, au niveau du matchmaking aussi, là. Il y a cette philosophie-là qu'on va cibler des boxeurs et des boxeuses qui ont des chances d'atteindre les plus hauts niveaux, d'avoir une ceinture, de devenir champion ou championne du monde, et on va bâtir des fiches en ce sens. Alors, il y a peut-être là une voie pour peut-être revoir justement la façon de faire et revoir les critères également.
Là. Je comprends, là, mais oui. On a posé la question à Yvon Michel, puis il nous garantit que ça n'a rien à voir avec le fait, comme on dit, d'envoyer quelqu'un pour gonfler la fiche de Marie-Pierre Houle. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, c'est au niveau des commotions cérébrales. Je veux pas faire le débat sur la boxe matin pur, là, mais il y a quelque chose qui n'a pas d'allure de permettre à quelqu'un de remonter dans le ring si rapidement après un KO, non?
Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, parce que si on regarde dans les collèges américains, les NCAA, on tient un registre de commotion cérébrale chez tous les athlètes dans tous les sports. Ici, au Québec, on ne le fait pas. On ne le fait pas à la boxe. Et on a une fiche de tous les combats au niveau de la régie de la qualité des courses et des jeux, mais on n'a pas de registre sur les commotions cérébrales. Alors, on veut changer les choses, on veut améliorer, moderniser cette loi-là pour avoir les boxeurs et les boxeuses en plus grande sécurité. Mais en même temps, on n'a pas de point de départ. On n'a pas de données, on ne sait pas combien de temps ça prend après, justement, un KO. Est-ce que c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois? On va déterminer arbitrairement un temps. Il va y avoir une évaluation avec le médecin. Mais on n'a pas d'études parce qu'on ne sait pas ce que ça fait une commotion cérébrale au niveau de la boxe chez les femmes, chez les hommes. Est-ce que les femmes récupèrent plus vite? Est-ce que les hommes récupèrent plus vite? Ça devrait être vraiment là à la pièce avec chaque athlète.
Enrico, là, il va y avoir un débat, évidemment, comme à chaque fois qu'un événement malheureux comme celui-là survient, et tu vas avoir les gens là qui vont prôner l'abolition de la boxe purement et simplement. Je pense que toi, là, tu tranches plutôt du côté de la ministre Charest. T'es pas prêt à aller aussi loin que ça, là.
Ben, c'est pas une question d'aller si loin que ça. Faut comprendre que dans des vieux sports, là, comme la boxe, comme dans le hockey, la culture est très, très, très difficile à changer. Moi, je dis pas aujourd'hui d'abolir la boxe. Je dis pas aujourd'hui d'arrêter de se frapper dans le visage, malgré que moi, je comprends pas qu'un sport, le but du sport est de frapper quelqu'un dans le visage. J'ai déposé des projets de loi en ce sens pour protéger les jeunes, les athlètes au niveau des commotions cérébrales. Mais du moins minimalement, il faut quand même revoir là la façon de faire, les critères, les matchmaking, comment on accepte qu'un boxeur ou une boxeuse, puis on l'a vu, là, on a vu les images par la suite, on voyait très bien que Mme Zapata n'était pas de calibre à Marie-Pierre Houle aujourd'hui, là. Et Marie-Pierre en paye les frais aujourd'hui parce qu'elle doit être dans... Elle a de la peine aujourd'hui, là, elle va vivre avec ça le restant de ses jours. Alors, il faut éviter ces choses-là.
Mais dans le fond, là, on a un univers de boxe avec différentes organisations. On parlait cette semaine, c'est
Mark Ramsey qui
l'entraîneur.
Dit qu'il y a autant de règlements que d'organisations.
Et on sait pas trop, en fait, la qualité puis la véracité des informations. Est-ce qu'elle a 18 ans? Est-ce qu'elle a été examinée par un médecin là-bas pour vrai? C'est quoi? Autrement dit, là, ce que je comprends, dans l'état actuel des règlements, à peu près n'importe qui peut monter dans un ring, là.
Ben effectivement, parce qu'il y a pas, faudrait peut-être commencer par uniformiser toutes les associations de la planète, mais ça c'est difficile à faire. Je sais que la régie de la qualité des courses et des jeux demande à ce que chaque boxeur et boxeuse ait une licence professionnelle pour venir se battre ici au Québec. Mais vous comprendrez, M. Arquin, qu'ici au Québec, on donnerait jamais une licence professionnelle à quelqu'un en bas de 18 ans, alors qu'au Mexique, on le donne en bas de 18 ans. Alors c'est très 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 difficile de voir à tout ça, mais faut s'assurer que ceux qui viennent se battre contre nos boxeurs et boxeuses ici au Québec sont en plus grande sécurité. Et si ça prend une commission, mais ça prendra une commission. Puis je suis content aujourd'hui que la coroner elle-même ait décidé d'y voir. Là.
OK. Merci, Enrico Ciccone. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Au revoir.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a beaucoup parlé, évidemment, de débats entre conjoints, ex-conjoints surtout, concernant la vaccination. Depuis le début de la COVID et de cette pandémie, donc, avec Maître Chim, on a regardé différents aspects, certains nombres de jugements qui ont été rendus. Hier, on avait le nombre de cas, c'est autour de 700, et 82% des 700 cas sont des gens qui ne sont pas vaccinés ou pas vaccinés adéquatement. Arrive ce jugement de la Cour supérieure, C'est un litige entre le père et la mère d'un enfant de 12 ans. La mère veut que l'enfant soit vacciné, le père veut pas. Et Maître Chirme, d'abord, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et bien, la Cour a tranché en faveur de la mère et l'enfant sera vacciné.
Définitivement. Et on a tenu compte de plusieurs facteurs. Notamment, on a tenu compte de l'avis du pédiatre de l'enfant parce que le couple était devant la cour et le juge a su qu'il y avait un rendez-vous avec le pédiatre dans quelques jours. Alors, elle a demandé d'obtenir justement une confirmation de l'avis du pédiatre qui est venu dire qu'au contraire, il devait être vacciné, qu'il n'y avait absolument aucune contre-indication pour cet enfant-là. Le père a soulevé certains faits. Il disait que son fils faisait du surpoids, qu'il avait eu des problèmes d'allergie et qu'il craignait là, que le vaccin lui cause des effets secondaires. Et il voulait aussi faire venir témoigner, il voulait faire déposer un rapport d'expert d'un docteur au Texas qui est connu pour être anti-vaccin pour venir donner une opinion. Le juge a refusé ça parce que on peut pas juste donner une opinion générale à la cour. On doit faire la preuve sur les personnes qui sont impliquées dans le litige. Et on aurait dû, si on pensait que le vaccin serait néfaste pour cet enfant-là, faire venir l'expert qui a déjà rencontré l'enfant et qui a fait une analyse de sa situation médicale, ce qui n'est pas le cas. Alors, le juge refuse le dépôt d'une expertise de cette scientifique au Texas, qui est très contestée d'ailleurs. Si on va sur Google, on peut voir qu'elle est contestée, qu'elle est anti-vaccin. Et cite également, disons, toutes les mesures sanitaires et cite le fait qu'on encourage et on veut la vaccination, le campagne de vaccination pour les enfants de 12 ans et plus, comment c'est important et le pourquoi. L'enfant a un avocat et il vient clairement dire qu'il veut être vacciné parce qu'il veut voir ses grands-parents, il veut être à l'école, etc. Et la cour, donc, tranche à l'effet que la mère peut faire vacciner l'enfant sans l'accord du père. Et prendre une décision, etc.
OK. Je vais faire la parenthèse, justement, sur l'enfant. À 12 ans, là, son point de vue est important?
Définitivement. À 12 ans, son point de vue est très important. À 14 ans, il décide, mais à 12 ans, le point de vue d'un enfant, peu importe dans quoi, dans une question de garde, etc., est primordial, est très important. Le juge doit le considérer. Ça ne veut pas dire que le juge va l'accorder, mais le juge doit le tenir compte très sérieusement le désir d'un enfant de 12 ans, de 12 ans et plus.
Avez-vous l'impression qu'on va avoir un certain nombre, et peut-être déjà il y a des causes qui sont en attente, là, de litiges entre ex-conjoints sur la vaccination des enfants?
Ben surtout avec si on commence à vacciner 5 ans et plus, mais là la table est mise. C'est le deuxième jugement là qui ordonne la vaccination. Et parce qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est pas nos croyances personnelles qui fait de la preuve. Un parent qui vient dire je ne crois pas, ce n'est pas de la preuve. Il faut avoir une preuve médicale que le vaccin est néfaste pour cet enfant-là. Alors, je sais pas quel médecin va venir du Québec, va venir à la cour dire que la vaccination est pas bon pour les enfants là, de ces temps-ci. Je vois très difficilement ça. Je pense que la table est mise. La seule chose que la juge a faite, elle a laissé ouvert la possibilité, si le père veut aller en appel, elle a ordonné que la vaccination ait lieu juste 30 jours après son jugement, probablement pour donner une chance à monsieur s'il veut aller en appel. Ce ne sera pas mauvais qu'on ait un jugement de la cour d'appel sur cette question-là pour clore le débat, mais je ne vois pas quel jugement, avec la tendance qu'on voit et les principes qui s'appliquent, quel jugement va refuser la vaccination à un enfant.
Merci, Maître Chirme.
Ça fait plaisir.
Au revoir, bonne journée. À vous aussi, Sylvie Chirme, avocate, donc en droit de la famille.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.